Du 19 au 23 août 2014, l'université d'été des attaques d'Europe, une belle réussite avec plus de 2000 personnes inscrites, des personnes provenant de plus de 44 pays, bien au-delà de l'Europe, hein, du côté de l'Amérique latine et du côté de l'Afrique, du côté de l'Asie. Des personnes étaient présentes aussi. Juste quelques extraits des discours d'ouverture, de fermeture, des chansons et des interviews prises au hasard sur le village associatif très dynamique qui se trouvait là. Écoutez l'ambiance.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano. E perire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se perire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
E le gentili che passeranno.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le gentili
che passeranno, ci diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Ville de la Commune. Et nous allons ici pendant une semaine vivre une utopie concrète et tenter de préfigurer ce que pourrait être une véritable commune internationale. Une commune internationale faite de pluralité et de diversité. Mais je voudrais d'abord saluer tous ceux qui ont permis cet événement. C'est un événement.
I want to salute all of those who...
Tous ceux qui nous ont aidés financièrement, la mairie de Paris, la région Île-de-France, la fondation Rosa Luxembourg, des groupes et organisations qui ont participé financièrement à l'organisation de cette université. On aura encore l'occasion de le faire, mais je voudrais saluer particulièrement toute l'équipe qui a rendu cet événement possible. Mais je voudrais dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Des attaques d'Europe, des attaques du monde, et au-delà de tous les réseaux que nous avons construits pendant les forums sociaux mondiaux, tous les réseaux qui se sont construits contre le dogme du libre-échange depuis 1994, les mouvements pour la justice climatique, les mouvements pour les communs, contre la financiarisation des ressources. Je voudrais dire notre fierté à la lecture du programme de cette université. Il témoigne de la capacité que nous avons à affronter la complexité de ce qui nous arrive et d'affronter l'effondrement d'un modèle dans toutes ses dimensions. Cet événement signalera certainement le renouveau du mouvement altermondialiste. Mais bien sûr, je ne peux pas introduire sans évoquer les nuages qui sont au-dessus de nous, la fragilité des processus démocratiques face à tous les fondamentalismes économiques, politiques, religieux, la fragilité des sociétés, le développement des conflits et des guerres. Et je voudrais conclure en disant que, ici, à Paris, nous répondons présents à l'appel du grand poète universel, qui est un poète de Palestine, Mahmoud Darwish, qui appelait le 25 mars 2002 à porter avec lui le fardeau de l'espoir, l'espoir d'une terre d'amour et de liberté, l'espoir de libération et d'indépendance. Ce sont des mots universels. Et pour conclure vraiment, je rajoute quelques vers de Mahmoud Darwish. On ne pourra pas les traduire parce que c'est très difficile de traduire de la poésie qui est déjà traduite. Donc je m'en excuse pour les non-francophones. Ce sont là aussi des mots universels qu'il a prononcés au moment de la mort de son ami et historien Edouard Saïd. Crie pour t'entendre. Crie pour savoir que tu es encore vivant. Et vivant, que la vie sur cette terre est encore possible. Invente un espoir pour les mots. Crée un point cardinal ou un mirage qui prolonge l'espérance et chante. Car le beau est liberté.
Vor fast genau 100 Jahren, im August 1914, begann mitten in Europa ein Krieg, der später der Erste Weltkrieg genannt werden sollte. Vorausgegangen waren die massive Aufrüstung.
Il y a presque exactement 100 ans, en août 1914, une guerre débuta en Europe, ce qu'on appela plus tard la Première Guerre mondiale. Avant ça, on a connu un armement en masse et une mobilisation idéologique dans ce qui était à l'époque l'Empire allemand. Les élites de cet empire allemand souhaitaient avoir une part du morceau impérial.
Er fand vor dem Hintergrund einer tiefen ökonomischen Krise statt.
Tout cela se passait dans un contexte économique d'une crise profonde. Les pays qui ont participé à cette guerre avaient une atmosphère qui est en train de bouillir, presque révolutionnaire. Cette guerre, qui est devenue une guerre mondiale, a été combattue dans presque tous les coins du monde. Le but était d'avoir l'accès aux colonies, aux matières premières et aux marchés. Et nous devons faire en sorte que nous n'oublions jamais que cette guerre avait pour but de mettre ensemble les classes sociales divisées dans les sociétés européennes avec une atmosphère nationale et pour que les élites des anciennes sociétés soient stables. Encore quelques mois et semaines avant la mobilisation en Allemagne, dans plusieurs pays européens, il y avait de grandes manifestations contre la guerre qui n'ont eu aucun effet. Aujourd'hui, 100 ans après, heureusement, nous n'avons pas à craindre que les troupes allemandes envahissent la France, mais le monde que nous connaissons aujourd'hui n'est pas pour autant plus pacifiste.
Sei es im Nahen Osten, in der Ukraine oder an allen anderen.
Que ce soit au Proche-Orient, en Ukraine ou ailleurs autour du monde, aujourd'hui, il y a plus de guerres que jamais. Et à chaque fois, les pays européens sont impliqués, que ce soit avec des troupes, avec des armes ou avec un soutien financier et de plusieurs parties en guerre parfois. Et encore, nous avons affaire à un accès aux matières premières, aux marchés et au contrôle des voies du commerce. Nous faisons face à des conflits guerriers qui ont encore comme contexte une crise économique et sociale. Être pessimiste, de dire que ces conflits régionaux pourraient devenir des conflits mondiaux. Pour l'instant, aucun gouvernement ou aucune alliance militaire est en train de planifier une guerre véritablement mondiale. Mais les conflits régionaux sont en train d'être préparés à l'échelle mondiale.
Nichts Neues also, doch.
Alors rien de nouveau, si, une chose en plus, une crise écologique, puisque nous sommes en train d'utiliser les dernières ressources de notre planète et de détruire notre système écologique mondial. Toutes ces crises, qu'elles soient économiques, sociales ou écologiques, ont rapport en des rapports entre elles. Et le fond du problème, c'est la façon avec laquelle nous produisons et nous consommons.
Statt Dinge zu erstellen und Beziehungen zu pflegen,
au lieu de produire des choses et d'avoir des relations qui nous aident à avoir une bonne vie, nous produisons seulement des produits qui sont pour les marchés et pour les profits. Ainsi, nous empirons la crise au lieu d'améliorer les choses.
Nun ist es eine Sache, sich über die Missstände dieser Welt zu empören.
C'est une chose que de se plaindre sur les conditions de ce monde. Si nous n'avons pas la force pour changer les choses, notre indignement ne servira à rien, même s'il est moralement correct. Nous avons besoin d'être indignés, mais de pouvoir résister aux conditions actuelles. Nous avons besoin de plus que simplement être indignés. Nous avons besoin de connaissances pour savoir comment est-ce que la société que nous souhaitons changer peut fonctionner. Nous avons besoin de créativité et de pouvoir convaincre les gens de parler ensemble pour ensemble se battre.
Die Vorbereitungsgruppe der Europäischen Sommeruniversität.
Nous en avons l'opportunité aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble et pendant cette prochaine journée, nous pouvons travailler ensemble, apprendre de l'un l'autre, rire et danser et à la fin avoir de vraies positions ensemble. Et pour finir, pensons à ceux qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Nous souhaitons représenter leurs intérêts sans parler pour eux, en solidarité.
On a compris que les phénomènes, les dynamiques, la spéculation, la privatisation, la financiarisation de la ville sont les mêmes au niveau, européen, au niveau global. On a compris aussi qu'avec la crise en Europe, ces phénomènes sont profondis. On a compris qu'on ne peut pas continuer à lutter seul et isolé. Donc on essaye, avec plusieurs mouvements européens, le grand défi de construire une coalition européenne de mouvements de lutte pour le droit au logement et le droit à la vie. Il y a des difficultés. Des difficultés de temps, de langue, de ressources, de rythme. Des difficultés de voir comment articuler les niveaux de lutte locale, nationale, européen et global. Mais dans l'Europe d'austérité, dans l'Europe autoritaire, on a besoin de construire ou reconstruire une lutte commune, articulée, de convergence au niveau européen. Je crois que les personnes et mouvements présents ici comprennent les difficultés et les défis qu'on a. Et aussi, je crois que beaucoup de personnes ici ont peur de développer stratégies et débats sur ça aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative à construire une lutte européenne des personnes et des mouvements contre l'austérité et la régression de la démocratie. Et c'est aussi pour ça que nous sommes ici, je crois, pour apprendre, pour élargir, pour articuler. Et je crois que ça, c'est possible.
We've been fighting to stop the total takeover of our society by corporations, by the market, by international capital.
Pour les 20 dernières années, nos organisations ont lutté sans relâche afin de lutter contre cette mainmise du capital et des grandes entreprises.
Today I want to talk to you about a treaty called TTIP or TAFTA.
Et je suis avec vous ce soir pour vous parler de différents traités comme le TTIP et le TAFTA.
Because in this treaty,
parce que, à nos yeux, ces traités représentent la plus grande menace de mainmise que nous avons pu constater ces dernières années.
Through this treaty, corporations are trying to fundamentally and irreversibly.
À travers ces traités, les grandes entreprises essaient de changer le rapport de force qu'il y a dans notre société aujourd'hui en leur faveur et en faveur du capital.
They're trying to write...
Et ils tentent de rédiger une constitution qui placera les droits des entreprises au-dessus des droits humains.
But we can beat TTIP. Okay, in Germany, in France, in the United States, in Poland, in more places, we see the coming together of trade unions, of NGOs, of grassroots movements to beat this terrible treaty.
Nous avons pu observer en France, au Royaume-Uni, en Pologne, aux États-Unis, dans différents pays, d'autres mouvements qui visent à lutter contre le TTIP et à vaincre ce traité.
The last time we saw something like TTIP was...
La dernière fois nous avons lutté contre une mesure du TTIP, c'était l'accord international, l'accord multilatéral sur l'investissement, et c'était il y a une quinzaine d'années.
It was like TTIP. The same people were behind it.
Il s'agissait exactement de la même chose que le TTIP. Les mêmes personnes se trouvaient derrière ce traité et ils avaient exactement les mêmes attentes.
But we did notice. And we created a global coalition.
Nous avons vu venir, nous avons lutté, nous avons vaincu cet accord multilatéral sur l'investissement.
And we didn't just beat it.
Mais nous n'avons pas simplement vaincu ce traité, nous avons également réussi à maintenir notre coalition ensemble et à lutter contre l'OMC, à l'empêcher de se développer.
We stopped the IMF dead in its tracks.
Nous avons également tuer le FMI dans l'œuf.
The G8 couldn't meet in any city on earth.
Le G8 ne pouvait se retrouver dans aucune ville du monde, il devait se retrouver dans des petites îles isolées.
We confronted the global economy with a movement for global democracy.
Et nous avons donc fait face avec des mouvements pour la démocratie globale, la démocratie mondialisée, la justice mondialisée.
And on TTIP, we can do this again.
Nous pouvons recommencer avec le TTIP, nous pouvons vaincre le TTIP et reprendre le contrôle de notre monde.
With a little chant that we'll celebrate.
Je souhaiterais remercier ce jeune homme à côté de moi qui nous a permis de lutter contre les barrières linguistiques.
I will say no TTIP and you say no TASDA.
Alors bonjour, vous tenez un stand pour qui?
Le collectif Roosevelt.
Oula, Roosevelt, c'est un connu lui.
Ben Roosevelt, il est connu, c'est le monsieur qui, aux États-Unis, a lancé le New Deal. Et nous, notre but, c'est de considérer que nous pouvons faire le New Deal en France et en Europe. Donc, c'est pour ça que le mouvement s'est appelé le collectif Roosevelt. Il a été créé en 2012 par Stéphane Hessel, Edgar Morin, Pierre Laroutourouz, Patrick Vivret, Cynthia Fleury, Bruno Gassio, des membres du Colibri, Suzanne Georges, l'Attaque, des membres du Colibri.
Alors c'est le New Deal, c'est quoi?
C'est la séparation des banques, la suppression des paradis fiscaux, tout ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi. Et la diminution du temps de travail, tout ce qu'on voudrait absolument appliquer aujourd'hui.
Et donc vous pensez que c'est possible sans révolution particulière, directe, là, de le mettre en place, comment?
C'est-à-dire qu'on y croit encore dans la mesure où il y a toute une action de regroupement de mouvements qui ont les mêmes objectifs, les mêmes idées, la transition citoyenne, les mouvements Alternativa, parce qu'on travaille aussi sur le problème de l'écologie et les développements durables. Donc, par pression de tous ces mouvements, c'est pour ça qu'on est resté mouvement de pression, alors qu'il a été créé à la base du collectif un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne. Nous sommes restés collectif Roosevelt pour faire mouvement de pression avec tout un tas de mouvements et que par la pression du nombre, on pourrait y arriver.
D'accord. Parce que bon, ce matin, j'étais à un atelier sur l'Amérique latine, sur la Bolivie, le Venezuela et l'Équateur. Bon, ils sont arrivés par les élections hein, à gouverner. Bon, et on parle aussi des pressions internationales contre eux, enfin des difficultés qu'ils rencontrent et des limites que ça dans ce monde.
Oui, oui, peut-être qu'il faudra être encore plus violent, peut-être qu'il va falloir être plus se regrouper, plus se battre, plus communiquer. On se bat aussi au niveau du traité transatlantique. Donc, on commence à faire des actions devant la maison de France Télévisions, les médias informez-nous. Donc, grâce à ça, on a quand même réussi à avoir quelques articles dans Marianne, dans Mediapart. On a réussi à faire bouger même des journalistes et même à la radio, à la télé. Donc, c'est important. C'est à ce niveau-là qu'il faut battre. Donc, il faut continuer à se regrouper et de plus en plus faire des actions tous en commun.
Merci. Bon, aux sources de vie, pas de profit, les amis de la Terre. Qu'est-ce que vous faites là, là ? Je ne comprends pas.
Alors, on est en train de montrer nos alternatives possibles. Les biens communs d'abord, bien sûr, l'eau, la terre, l'humus. Hein, il ne faut pas l'oublier, l'humus. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ben, on participe à un événement européen qui rassemble beaucoup de nationalités, assez étonné d'ailleurs par rapport à la présence étrangère pendant ce séjour. Ben c'est toute l'éducation populaire, toutes les alternatives, les anti-TAFTA. Et donc nous, comme on est souvent anti-tout, les amis de la Terre, mais avec des alternatives, on présente nos alternatives.
Ah, d'accord. Alors vos alternatives, tu peux en citer quelques-unes là ?
Oui, par exemple, changer de banque, aller dans une banque éthique. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle va le devenir, la NEF, par exemple. Consommer responsable, c'est faire attention à ses déchets. On a une très grosse initiative, c'est la famille Répartout, c'est-à-dire que pas d'obsolescence programmée. On est très, très visible sur l'obsolescence programmée d'ailleurs, nous les amis de la Terre. C'est un gros dossier pour nous, puisque la garantie à 2 ans, c'est quand même un peu un de nos combats. On a demandé 10 ans, mais ils nous ont donné 2 ans. On gagnera 5 ans dans quelques années et 10 ans dans quelques années. D'autres alternatives sont possibles sur le terrain. Après, on est une fédération, donc on décline aussi nos alternatives sur le terrain.
Merci. Bonjour, monsieur de Sisteron.
Oui, donc Alain Duez, fondateur du journal L'Âge de Fer, plus précisément. Donc, moi, je suis effectivement aux journées d'attaque parce que je recrute les personnes qui vont aider au lancement d'un nouveau magazine grand public qui s'appelle Demain en main. Parce que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, et c'est pas d'aujourd'hui malheureusement, on peut penser que la désinformation et la manipulation de l'opinion sont l'arme absolue des puissances, avec ça qu'ils exercent leur domination. Et de manière surprenante, sinon paradoxale, il n'existe aucun média alternatif grand public. Il y a 10 ans, avec L'Âge de Fer, j'ai voulu en créer un. Malheureusement, je suis encore tombé dans le cercle de convaincus. Bon, à la marche quand même, parce que c'est un journal qui était apprécié pour son côté positif, mais il n'a pas touché le grand public. C'est pas facile. Donc là, on repart avec un projet qui s'appelle le Plan S. Je ne rentrerai pas dans le détail, ça serait trop long. Mais dans le Plan S, donc, il y a un outil papier qui s'appelle Demain en main. L'objectif est de le tirer à 300 000 exemplaires, 32 pages d'informations sans publicité sur les alternatives, conçues, pensées, écrites pour le grand public. Et tenez-vous bien, à 300 000 exemplaires, il va être vendu 20 centimes sans publicité. Donc je recrute des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, qui acceptent, moyennant 6 euros par mois, de contribuer à la difficulté qui est de le faire connaître. Donc pour 6 euros par mois, vous en recevez 30 dans votre boîte aux lettres. Et à charge pour vous de le dispatcher autour de vous pour le faire connaître le temps que la personne découvre que ça l'intéresse, bien qu'elle n'était pas demandeuse au départ, et qu'elle s'abonne.
Mais c'est une bonne idée. Et on en parlera à Radio Galère, qui est un média aussi grand public. Non, mais c'est vrai, les radios, c'est important aussi. Et on ne choisit pas nos auditeurs. Et des gens variés nous écoutent, voilà. C'est certain.
Non, mais attendez, je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. J'ai tout à fait conscience de l'énorme difficulté que c'est de toucher le grand public. La plupart, toutes les associations, personne ne veut pas toucher le grand public. Tout le monde veut élargir son influence. Mais c'est un problème très difficile auquel aucune structure peut pratiquement s'attaquer toute seule. Il y a une démarche, il faut une petite mobilisation citoyenne pour y arriver, si vous voulez. Le Plan S, c'est ça. Là, je vous ai parlé de l'outil papier, mais dans le Plan S, il y a aussi l'outil web, un site national qui va se décliner autant de portails locaux qu'il y a de cantons sur lesquels se sera mis en place le troisième pied du dispositif, l'accompagnement humain, c'est-à-dire un groupe d'animation locale qui va dire oui, on va être présent pour faire découvrir effectivement les alternatives là où est le grand public, c'est-à-dire sur les marchés et tout ça. Bon, ça, aucune structure ne peut le faire tout seul, trop difficile. Mais là, à travers le Plan S qui est ouvert à énormément de structures qui soutiennent le projet en le faisant connaître dans leur réseau, ça devient possible. Mais c'est pas gagné, hein, il faut... Là, je suis venu pour recruter des coopérateurs, pour l'instant j'en ai 2. Dans une journée et demie, donc j'attends de voir le résultat vendredi soir.
C'est curieux parce que cette désinformation, tout le monde en parle, tout le monde dit oh là là, c'est scandaleux, c'est intolérable que la presse soit dans les mains de Bouygues, Lagardère, Dassault, tout ça. C'est pas... Bon, ok, mais eux ils font leur boulot quelque part qui est de défendre leurs intérêts, aussi scandaleux soit-il. Nous, on est absent pour l'instant de ce champ médiatique et je pense qu'il y a vraiment. Il y a énormément à gagner pour un investissement qui finalement est peu de choses. 6 euros par mois, 30 magazines, c'est rien du tout.
Enfin, j'ai envie de dire qu'on n'est pas absent et que les projets des radios libres ou d'autres même sont quelque chose de tourné vers les militants, mais
oui,
pas
mais
du
c'est
tout.
Trop, c'est trop peu, c'est trop peu par rapport à l'ampleur du problème. Et en plus, si vous voulez... c'est difficile d'être grand public. Il faut peu de choses pour éloigner, pour choquer. Il suffit que ce soit un peu partisan. Enfin, je veux dire, il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre pour arriver.
Si je peux me permettre, enfin aussi, bon, je vous connais pas. Vous me dites, je vais créer un nouveau magazine. Ouais, et ben, ça me donne pas.
C'est l'association L'Âge de Fer que j'ai créée il y a 13 ans. Et qui effectivement a porté le lancement de L'Âge de Fer, qui existe toujours. Hein, le journal L'Âge de Fer, il tire 25 000 exemplaires. Ça a marché, bien que je regrette un petit peu qu'on n'ait pas été assez grand public. Les salariés de l'association L'Âge de Fer ont repris le journal L'Âge de Fer il y a 3 ans. Et ils en sont les patrons en scope. Hein, voilà. Mais à travers cette première expérience, je n'étais pas du tout dans la presse, hein, j'étais dans le bâtiment. Ouais, ouais, bon. Mais à travers cette expérience, je me suis rendu compte que si l'information est indispensable, ce n'était pas suffisant par rapport aux enjeux. Il fallait aller plus loin et le plan S va plus loin, en ce sens qu'il associe le papier avec une véritable volonté cette fois-ci de ne pas se louper sur la cible, avec le web et l'accompagnement. Alors je pense qu'avec les trois, si vous voulez, on commence effectivement à occuper un peu le territoire. Et en plus, ça restera une goutte d'eau dans la mer, hein, je veux dire, c'est clair. Mais j'espère qu'on ouvre une brèche dans laquelle d'autres viendront s'engouffrer et qu'on en finira avec cette putain de désinformation, si vous voulez. C'est l'arme absolue des puissants. C'est avec ça qu'ils dominent le monde. Attendez, merde, diffuser l'information, on sait faire quand même, non?
Ok, merci. Bonjour, c'est une association, Andine?
Non, Andine est une coopérative, donc une entreprise. Et moi, je suis la présidente de l'association des amis d'Andine qui soutient la coopérative. Voilà, mais c'est Andine qui a assuré les repas.
Donc c'est une coopérative qui fabrique, enfin, vend, fabrique des produits.
C'est une coopérative qui se défonce depuis 27 ans maintenant pour l'équité dans l'économie, qui est propriétaire de la marque Commerce Équitable, mais qui ne la commercialise pas, et qui a beaucoup de mal à survivre, puisqu'il faut des fonds. Quand on travaille avec les producteurs les plus précaires du monde, il faut préfinancer les commandes, et puis il faut assurer donc la trésorerie jusqu'à ce que les clients achètent. Et puis, il n'y a personne, il n'y a aucune institution, aucune banque pour soutenir la coopérative. Donc, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot et beaucoup de frustration. Mais c'est un combat.
Donc, les producteurs viennent d'où?
Alors, ils viennent d'au moins 17 pays, des pays d'Amérique du Sud. Beaucoup d'Équateur pour tout ce qui est alimentaire. Du Pérou, d'Afrique du Nord, d'Inde, de 17 pays, et y compris de la France, puisque Andine pratique l'équité dans l'économie nord-nord, et pas simplement nord-sud, comme le préconise ne serait-ce que le gouvernement français.
Oui, et la question qui me venait à l'esprit, c'était bizarre de commercialiser des produits mondiaux et de leur faire traverser la planète alors qu'il en existe plus proche. Enfin, ça ne s'oppose pas non plus au fait de consommer sur place, quoi.
Non, mais Andine n'importe que des produits qui n'existent pas dans notre territoire. Par exemple, le café, le chocolat, le quinoa. Des produits qui n'existent pas ici. Donc, qui ne sont
c'est
pas...
C'est de l'échange.
C'est de l'échange.
Merci.
Je vous en prie.
Bonjour, Jeanne, on m'a dit. Et on m'a dit que tu étais beaucoup occupée de l'organisation de cette université d'été. Tu es contente?
Très contente. Ça se passe très bien jusque-là. Donc on a beaucoup plus de monde que prévu. On est quasiment 1700, je pense. Et puis, il n'y a pas de gros problèmes. Tout se passe bien. Les gens ont l'air contents. Les salles sont un peu trop remplies. C'est un peu le seul problème. On n'a pas de pluie, donc vraiment super, il y a des gens qui viennent de partout, plein de rencontres, donc ça se passe très bien au deuxième jour.
Et les objectifs du fait que c'est une université européenne, là, ils étaient un petit peu définis, c'était quoi ?
Bah, les objectifs pour ATTAC, c'était déjà de faire en sorte qu'il y ait un maximum de réseaux européens et d'organisations européens qui soient présents, contrairement aux universités d'été françaises où c'est, voilà, on a l'habitude de faire venir les réseaux, nos partenaires au niveau français. Et là, il y avait vraiment un enjeu sur le fait que ce ne soit pas qu'un événement avec des Français, qu'il y ait vraiment une diversité de personnes, de réseaux représentés. Et ça, je pense, alors je n'ai pas exactement les chiffres, mais il y a au moins 500 étrangers, européens ou au-delà. Il y a plus d'une centaine, 150 réseaux, organisations représentées. Donc c'est vraiment au niveau de cet objectif-là, en termes de dynamique européenne, c'est vraiment, je pense, une réussite. Après, on verra ce que ça va pouvoir entraîner comme relations, actions communes, campagnes, des choses comme ça. Mais déjà, en soi, c'est un objectif qu'on a atteint, je pense.
Oui, c'est ça. Ce matin, moi, j'étais dans un séminaire sur l'Amérique latine, là, et voilà, il y avait un tiers des gens qui venaient d'ailleurs et qui avaient des expériences à transmettre et qui ont fait le déplacement, donc c'est vrai.
Ouais, donc je pense qu'il y avait un vrai enjeu, enfin, il y avait une vraie attente de ce type de rencontre et de lieux, d'espaces, qu'on a ouvert, parce que l'idée, c'était vraiment pas que ATTAC impose, mais organise un programme entier avec des activités. On a ouvert dès le départ sur le programme pour que les réseaux et les acteurs européens puissent proposer des activités sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent ou sur lesquelles ils veulent rencontrer d'autres organisations. Et donc ça a déjà très bien marché au niveau du programme. Voilà, donc effectivement, il y a des activités sur lesquelles il y a des gens de partout. Alors avec des gros enjeux en termes d'interprétariat, on a 73 interprètes bénévoles, tous. Donc ça, c'est vraiment aussi une réussite parce qu'ils ont répondu à l'appel et ils sont très très motivés, ils bossent beaucoup, donc il faut pas oublier de les remercier parce que vraiment ils font du super boulot. Donc ça, c'était compliqué.
Et c'est vrai que bon, on peut avoir, je sais pas, par exemple nous à Marseille, on avait organisé le FAM, là, le Forum Alternatif Mondial de l'Holo. C'était sur un thème particulier, il y avait eu du monde, bon c'était normal, des gens d'ailleurs aussi. Beaucoup d'interprètes bénévoles aussi, c'est vrai qu'on les remercie chaque fois. Et là, c'est quand même beaucoup plus généraliste, mais ce n'est pas un forum social non plus.
Non, ce n'est pas non plus un forum social. C'est-à-dire que ça a vraiment été porté, organisé au niveau de la structure du programme commune depuis longtemps et des thématiques qui sont celles d'ATTAC avant tout. Donc les questions de la finance, des banques, des choses comme ça qui sont centrales. Mais avec vraiment, il y a quand même un petit côté forum social du fait de justement de cette ouverture du programme à d'autres organisations qui voulaient porter des choses et de pas avoir voulu effectivement avoir un thème central pour permettre cette ouverture en fait et que les réseaux ils travaillent sur les questions de l'eau, de l'écologie, je sais pas, différentes choses, ils puissent trouver leur place en fait et aussi que ça permette que ces réseaux qui sont parfois monothématiques se croisent et se rendent compte qu'en fait il y a des choses à travailler ensemble en fait. C'est ça qui me semblait intéressant.
Et c'est vrai que quelquefois, ça peut presque représenter une garantie, je sais pas, sur le terrain des femmes, le fait que ce soit ATTAC qui l'organise et qui choisisse, un peu quand même, ça améliore le côté forum social où on rencontre quelquefois des gros débats et des désaccords.
C'est-à-dire le fait que ce soit ATTAC qui porte et tout ça. Après, je pense que ATTAC a un rôle un peu pivot ou de lien en fait entre pas mal de réseaux, d'organisations et thématiques, et notamment ATTAC France qui de fait ne travaille pas uniquement sur la finance et touche à beaucoup de thématiques. Donc, et c'est vrai que pour beaucoup de réseaux, le fait que ce soit ATTAC qui porte, qui organise, etc. Voilà, ça donne une légitimité à l'événement et tout ça. Donc c'est clair aussi.
Un autre monde est possible, mais bon, plus ou moins le même quand même, pas n'importe lequel.
Si. Et le dernier atelier, donc vendredi, parlera de quelle démocratie on peut mettre en œuvre dans la gestion de l'eau au sein de l'Union européenne, puisque tous les mouvements pour l'eau européens se posent la question de comment essayer d'introduire une véritable démocratie directe et participative dans les institutions qui gèrent l'eau dans les différents pays européens. Et donc on verra des expériences telles que les référendums qui ont eu lieu en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Grèce. On verra également des propositions telles que l'Observatoire de l'eau de Paris, des propositions venant du mouvement grec de Thessalonique pour la mise en place de coopératives de l'eau, pour remplacer des sociétés plus ou moins publiques-privées qui gèrent l'eau en Grèce, etc.
Ben voilà, ça sera intéressant. Donc il y aura des intervenants venant de Grèce, d'Espagne.
Donc il y aura des intervenants qui viendront de beaucoup de pays européens, donc France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce.
Bon ben, super.
Et ça date des fin des années 60, début des années 70, quand on luttait contre la guerre du Vietnam. Moi, je suis pas trop jeune. Et c'était « I'm gonna let nobody turn me around », je laisserai personne me détourner de mon chemin. Keep on walking, keep on talking, continuer à marcher, continuer à parler, because I'm gonna build a brand new world, parce qu'on va construire un monde nouveau. Et ça va bien avec Attaque, parce que c'est le monde possible, quoi, grosso modo. So, alors, vous pouvez aussi utiliser les instruments naturels, qui sont des mains, ou vos pieds, ou prendre le voisin de gauche, taper le voisin de droite. Voilà. Hi. I'm gonna let no one turn me around. Ain't gonna let no one will turn me around. Ain't gonna let no one turn me around. Keep on walking, keep on walking. Well, I'm gonna build a brand new world. Ain't gonna let the establishment turn me around, ain't gonna let the establishment well, turn me around, ain't gonna let the establishment turn me around, keep on walking, keep on talking, I'm gonna build a brand new world, ain't gonna let that killer Kissinger turn me around, ain't gonna let that killer Kissinger turn me around, ain't gonna let that killer Kissinger turn me around, keep on walking. Keep on talking. Oh well, I'm gonna build a brand new world. Ain't gonna let that banker turn me around. Ain't gonna let that fucking banker turn me around. Ain't gonna let that fucking banker turn me around. Keep on walking, keep on talking. I'm gonna build a brand new world. Ain't gonna let no one will turn me around. Ain't gonna let no one. Turn me around, ain't gonna let no one turn me around. I keep on walking, keep on talking. I'm gonna build a brand new world.
Bonjour, dont les neurones sont reconnectés. Un prénom ?
Waïra.
Voilà. Donc, tu fais partie de la commission Attaque Genre, on m'a dit. Et tu peux présenter rapidement quel rôle ça a, pourquoi ça a été nécessaire ?
Oui, donc la commission Genre d'Attaque essaye de mettre en avant et de réfléchir sur les thématiques liées aux droits des femmes ou comment les politiques impactent les droits des femmes et le quotidien des femmes. Donc par exemple, là, dans le cadre de la crise économique, il y a toute une dimension qui est particulière en ce qui concerne les femmes et qu'on a essayé de pointer, de mettre en avant et donner des informations aussi sur ces dimensions. Donc, parce qu'on sait que les femmes sont plus touchées par le chômage et le sous-emploi, occupent la majorité des emplois à temps partiel. Et donc, avec les restrictions budgétaires ou les mesures d'austérité, elles sont d'autant plus pénalisées par les restrictions budgétaires.
Et ça change avec Najet Vallaud-Belkacem ?
Alors, nous, ça ne nous empêche pas de rester mobilisés dans notre approche qui est à la fois... on dénonce effectivement la domination masculine issue du patriarcat, mais également les autres rapports de domination. Et c'est ça qui nous intéresse aussi à Attaque, de travailler en tant que féministe au sein d'Attaque. C'est aussi de mettre en relation les différents systèmes de domination. Donc en mettant pas un qui soit supérieur aux autres, mais ce que c'est bien souvent, c'est l'association entre la domination de classe, la domination de genre et les inégalités nord-sud qui font que c'est souvent les femmes se retrouvent d'autant plus pénalisés, donc soit impactés par la crise ou alors dans des situations d'autant plus difficiles dans les migrations ou avec un accès à l'emploi d'autant plus difficile. Donc c'est ça qui nous intéresse de relier les différentes analyses, notamment par rapport aux différents rapports de domination. Donc là, ce matin, on animait un atelier donc, sur la montée des extrêmes droites en Europe et l'impact sur les droits des femmes. Donc là, encore, il y a des spécificités donc, par rapport à des partis qui véhiculent une idéologie patriarcale, mais ce n'est pas les seuls à le faire, hein, bien entendu, et qui prônent une vision de la société très paternaliste, une attaque contre les droits qui ont été acquis par les femmes au cours de l'histoire et qui sont sans cesse susceptibles d'être mis en question, donc comme le droit à l'IVG par exemple, l'accès à l'IVG en Pologne, en Espagne, donc ils sont là par exemple dans le cadre de l'IVG, c'est à la fois par exemple les restrictions budgétaires dans le milieu de la santé qui font que dans certains pays même où le droit à l'avortement existe, de fait l'accès à l'avortement est plus difficile pour les femmes. Donc il y a à ça s'ajoute l'idéologie patriarcale, donc qui est véhiculée aussi par certains courants extrémistes religieux, mais pas uniquement, puisque l'enjeu du contrôle de la fécondité des femmes est aussi un enjeu politique. Et donc ça c'est un des aspects qu'on a pu aborder ce matin, mais il y a du Front National en France et des partis...
plutôt pour le salaire maternel.
Oui, voilà, c'est ça, qui est intitulé « Salaire parental », avec une certaine hypocrisie pour mieux faire passer la pilule, quoi.
Et tu fais partie de la marche mondiale des femmes ?
Non, je ne fais pas partie de la marche mondiale des femmes, mais je m'intéresse beaucoup aux travaux qui sont menés. Et on est souvent associés dans les mobilisations en France. Et d'autant plus parce que moi, je trouve ça très important de s'appuyer entre féministes donc dans les différents pays, par le biais d'une solidarité aussi envers les autres féministes, par exemple dans le cadre des luttes de femmes en Tunisie qu'on a soutenues à la Télec celle de féministes aussi en Tunisie, puisqu'à la Télec c'était des ouvrières dans une multinationale française, mais également donc dans une perspective de solidarité, mais aussi parce que ça nous concerne et les avancées qui peuvent être obtenues ailleurs, dans d'autres pays, sont aussi intéressantes pour nous ici, dans la construction soit de nouveaux modes de lutte, mais aussi d'échanges et pour de nouvelles perspectives positives et constructives.
C'est vrai, c'est toujours, quand on va dans des réunions internationales, c'est toujours fabuleux de voir les contacts qu'on peut avoir. Je ne suis pas allée aux Philippines, par exemple, mais quand ils y sont allés, les gens qui en reviennent ou qui racontent, c'est très impressionnant. Un peu comme ici, on peut rencontrer des gens d'ailleurs aussi. Et cette mise en place de rencontres internationales, on sent que c'est un besoin capital.
Oui, je pense que c'est très important et peut-être que dans une période de crise où les femmes en particulier peuvent redouter un certain backlash, je pense que c'est aussi l'occasion de se resserrer, de s'appuyer, de serrer les coudes, et on voit que les manifestations internationales qui ont eu lieu dans tous les pays d'Europe quand l'avortement a été menacé en Espagne, ont eu quand même un poids considérable. Et donc là, je pense qu'il y a aussi des choses qui se construisent. Et le fait qu'on a l'impression que les choses tardent à avancer, je pense que malgré tout, là, il y a une conscientisation qui valorise l'importance de ces soutiens à l'international.
Voilà. Et puis une dernière question à propos de la prostitution. Court prétendant que cette oppression, exploitation, oppression extrême serait une liberté ou un choix. Enfin, et donc j'ai beaucoup apprécié la dernière motion qui a été votée au congrès d'Attac là.
Oui, oui, bah ça c'est un des combats aussi qu'on a mené. La sortie de ce livre remonte déjà il y a quelques années, mais bon, c'était assez important que Attac puisse publier, enfin puisse sortir ce livre. Et effectivement, on a continué à travailler sur ces questions. Et dernièrement, la dernière assemblée générale d'Attac, effectivement, une résolution abolitionniste a été adoptée, a été soumise au vote des adhérents et adoptée par Attac. Donc ça aussi, c'est un pas en avant parce que ça manquait quand même cruellement dans le positionnement d'une association altermondialiste qui analyse de manière très fine la mondialisation et les impacts de la mondialisation néolibérale. À la fois, il y a un travail qui est fait sur les migrations, sur les relations internationales et l'augmentation de la pauvreté pour certaines parties de la population. Et donc là, ça nous semblait vraiment important de dire que face à l'augmentation de la pauvreté, de la précarisation qui touche, comme je disais tout à l'heure, de manière vraiment particulièrement forte les femmes, y a un moment, à la fois on s'oppose à la marchandisation des corps et à la fois on souhaite pouvoir construire un monde qui permette aux personnes de ne pas être forcées à se prostituer. Et donc déclarer qu'on est pour l'abolition de la prostitution, c'est aussi dire que la prostitution est une atteinte à la dignité humaine et que il y a un moment, il faut savoir quelle société on souhaite construire et sans fatalisme, sans se dire la prostitution existera toujours et tout. Peut-être que c'est le cas, mais il y a un moment, il faut aussi dire quelle société on souhaite construire. Et quand l'esclavage a été aboli, l'esclavage n'a pas arrêté du jour au lendemain et certains esclaves pouvaient se sentir plus en partie protégés par les maîtres dans leur situation d'esclave. Et ce n'est pas pour autant que la société n'a pas trouvé un moment nécessaire de dire non, en fait, on considère que c'est une atteinte à la dignité humaine qui n'est plus pas acceptable dans la société que nous souhaitons construire, et donc on abolit l'esclavage. Donc, par rapport à la prostitution, c'est le même mécanisme. Il y a un moment où il faut pouvoir regarder les choses en face et tenter de mettre un frein à cette exploitation extrême.
Merci.
Nous sommes un cas, chanson des Andes. Chanson de François Béranger. Nous sommes un cas, nous sommes un cas pathologique. Nous sommes un cas, nous sommes un cas anachronique. Nous avons bien trop tardé à faire nous aussi du Sud-Américain. Nous avons bien trop tardé à grossir les rangs de tous les faux indiens. Quand on fait de la musique, faut avoir l'esprit pratique. Il faut savoir exploiter le goût immodéré des gens pour l'exotique. Surtout pas se mettre en tête d'originalité et authenticité. Aïe, 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 aïe. Voilà les grands mots lâchés. Aïe, 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 aïe. Si on fait dans les idées, on va sûrement être exclu de la fraternité et des chanteurs à succès. À la place d'un tas de dollars, on va tout juste avoir sifflé les écolibés. Oui. Nous sommes un cas, nous sommes un cas pathologique. Nous sommes un cas, nous sommes un cas anachronique. La musique des Indiens, celle des Mexicains, celle des Colombiens. Ça nous dit seulement misère, sécheresse et de l'acte de pouvoir des militaires. Peuples écartelés, villages abandonnés, bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés.
et les prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture. Aïe, 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 on ne va pas s'en sortir. Aïe, 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 c'est pas ça qu'il faudrait dire. On ne va pas réussir à faire la chanson qui donne envie de partir. La chanson publicitaire pour remplir les charters de joyeux vacanciers. Aïe. Nous sommes un cas, nous sommes un cas pathologique. Nous sommes un cas anachronique. À travers cette chanson complètement débile, notre esprit fragile s'est donné du bon temps. On voulait simplement dire salut en passant aux peuples écartelés, aux villages abandonnés, aux villes qui sont peuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés, et aux prisons infernales où sévissent torture, gradage et pourriture.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, on a voulu créer un autre événement qui soit plus centré sur nos pratiques militantes, renouveler nos pratiques militantes, renouveler nos formes d'intervention auprès du public, etc. Et un autre aspect aussi qui se veut un peu en contraste par rapport à cette université d'été, c'est on essaye, et du coup, ça demande une dimension plus petite, on ne dépasse jamais les 120 personnes, de vraiment mettre en pratique nos idées pendant une semaine. Donc pendant une semaine, avoir une vie à la fois autogérée, il n'y a pas d'organisateurs et de consommateurs, de participants, tout le monde se retrouve à autogérer l'événement. Tout le monde se retrouve à faire la bouffe, à vider les toilettes sèches, à, je sais pas moi, tenir le bar, etc. Et puis on essaye d'être beaucoup plus soucieux que ce que peut être l'université d'été. Et c'est pas une critique, hein, c'est juste que l'événement se donne cet objectif-là, vraiment sur tous les produits sont locaux, bio. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Pas grand monde fait les deux événements, même si là on retrouve pas mal de gens qui étaient à l'intervillage, mais c'est assez rigolo de voir que c'est une autre facette d'attaque finalement, quoi. C'est.
Oui. Moi je connais des lieux où on fait un peu ça, enfin comme. À Minerve, le Cravirola, je ne sais pas si tu as entendu parler, qu'avant ils étaient à la Brigue. Bon, il y a des lieux où on vit toute l'année comme ça.
Bien sûr.
C'est un peu différent.
Ah ben bien sûr, mais nous on ne prétend pas faire ça. Bien sûr que c'est un événement éphémère. L'autogestion, ça se vit souvent à l'année, enfin ça se vit en permanence, il y a des lieux autogérés. Très souvent d'ailleurs, on tient nos intervillages sur des lieux autogérés. On a fait des fermes autogérées, des squats artistiques, ce genre de choses-là, quoi. Non, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, d'essayer de faire vivre ça à l'intérieur d'Attax, qui là, pour le coup, existe moins. Et voilà, et du coup, quand on l'a fait la première année, on ne savait pas si ça allait continuer. Et maintenant, ça s'est installé dans le paysage estival d'Attax. Tous les ans, il y a les deux événements qui cohabitent. Et ça se passe très bien comme ça. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas le même public. Et finalement, il faut qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Hein. Tout le monde ne se retrouve pas forcément à l'intervillage. Tout le monde ne se retrouve pas forcément à l'université d'été. Mais c'est bien que les deux existent.
Oui, mais bon, l'objectif, c'est quoi ? De prouver que ça peut exister ? De concrétiser des idées qu'on prêche et de les mettre en pratique. Mais... Enfin, je c'est un peu se regarder le nombril si c'est que entre gens d'attaque, enfin, je sais pas.
Tous les ans, il y a au moins la moitié des gens qui sont pas d'attaque. C'était pas pensé comme ça, mais ça devient de plus en plus une porte d'entrée dans l'attaque parce que justement, c'est plus facile quand on arrive à l'université d'été. Il y a des débats qui sont très très bons sur le fond, mais qui sont pas très, j'ai envie de dire, grand public dans le sens où ça vole haut. Il faut déjà avoir, c'est des initiés entre guillemets, des débats d'initiés. Là, c'est vrai que c'est souvent plus des débats. Pratique puis plus accessible du coup, donc c'est vrai que ça a vraiment cette vocation là mais après je pense que l'objectif vraiment c'est d'avoir un temps de réflexion sur nos pratiques, ce qu'on peut pas avoir sur un événement comme ça où tu vois il faut parler de, enfin il y a plein de thèmes dont on, c'est bien qu'il y ait des temps pour en parler, mais c'est vrai que de réfléchir, et je pense pas que ça se regarde le nombril, mais de s'arrêter pour réfléchir sur ah et au fait comment est-ce qu'on anime une réunion, ah mais au fait comment est-ce que on, je sais pas moi, telle ou telle pratique militante, des clous tous les ans, il y a des ateliers sur les clowns activistes, sur le théâtre forum, sur les ateliers d'écriture. Donc c'est beaucoup plus centré sur la forme et moins sur le fond. Plus sur des outils, on appelait ça souvent des idées aux actions, quoi. Ou des outils pour nos idées, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire passer nos idées, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment l'objectif de l'université d'été, c'est de gamberger sur le fond et que tout le monde s'approprie un peu l'état de la réflexion. L'intervillage, l'objectif est plus de réfléchir sur nos pratiques, nos modes d'action et faire en sorte de faire évoluer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça part du constat qu'on est très bon sur le fond, mais qu'on n'arrive pas à le faire passer au grand public. Parce que, je vais être caricatural, mais si on n'a pas Bac plus 5 et si on n'a pas fait les études d'économie, on ne comprend pas, quoi. Et ça, ça s'explique par quelque chose, à mon avis, qui est qu'on était tous débutants il y a 15 ans, et aujourd'hui, on est tous devenus des experts, parce qu'ATTAC, c'est un formidable lieu d'auto-formation. Quoi. Sauf que quelqu'un qui arrive, qui débarque pour la première fois, du coup, il a pas forcément... Ou quelqu'un qu'on croise dans la rue, si on lui parle de TAFTA, nous, ça semble évident, on explicite même pas le sigle, mais les gens, il faut bien expliquer ce que c'est. Quoi. Donc, c'est vrai que l'intervillage se donne cet objectif-là de réfléchir à comment avoir des outils qui permettent davantage d'intervenir dans l'espace public et d'interpeller l'opinion publique sur des thèmes qui sont pas faciles, parce que c'est ça, on travaille sur des thèmes qui sont compliqués, hein. C'est plus facile de dire il y a trop d'arabes, là il n'y a pas besoin de faire une argumentation en 5 minutes, non mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, et il y a certains slogans qui peuvent aller vite, les attaques ça se résume pas en des slogans, donc c'est vrai que souvent on se retrouve avec des super outils, par exemple un 4 pages super sur le fond que les militants des autres organisations vont s'arracher parce que ça va être super. Par contre, pour aller intervenir dans la rue, on se retrouve souvent démunis, quoi. Et donc, modestement, l'intervillage essaie de réfléchir à ça, quoi.
Ok, merci. Bonjour, tu veux bien nous parler de ce projet Alternatiba, pour des gens qui connaissent rien à ça ?
Alors, Alternatiba, c'est le nom d'un village des alternatives au changement climatique. En fait, c'est une nouvelle forme de mobilisation. Et il y a aujourd'hui 40 villages comme ça qui sont en train de s'organiser partout en France, à Rennes, à Nantes, à Toulouse, à Nancy, etc. etc. Et pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, c'est des centaines de gens qui se mettent en mouvement pour... dans la perspective d'un gros sommet sur le changement climatique qui va se tenir à Paris fin décembre et qui s'annonce comme décisif ou plein de choses importantes devraient se décider si nos gouvernants en avaient la volonté, mais on voit bien qu'ils n'en ont pas la volonté, et bien, ces villages se mettent en place dans les centres des villes, dans des places, etc., pour montrer toutes les alternatives qui peuvent dès maintenant permettre, sans attendre un grand accord de nos gouvernants, faire réduire nos émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Alors, ces alternatives, elles sont à tous les niveaux. L'agriculture paysanne au lieu de l'agriculture industrielle, les transports collectifs, le vélo, etc. Le covoiturage à la place du tout voiture individuelle ou du transport routier, l'éco-habitat, l'habitat participatif, la rénovation thermique des logements, et puis le partage du travail et des richesses, une autre gestion des déchets, des énergies renouvelables, des économies d'énergie, etc. etc. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, il y a des alternatives qui permettent de combattre concrètement ce réchauffement climatique, ce dérèglement climatique qui risque dans quelques dizaines d'années de nous créer un enfer sur Terre, parce qu'on voit que les avances signent aujourd'hui. Et non seulement elles permettent de combattre le dérèglement climatique, qui devrait être une urgence centrale pour tout le monde, les populations, les élus, les décideurs, les responsables économiques, mais en plus, ces mesures-là, ces alternatives-là, elles permettent de construire une société plus humaine, plus conviviale, plus solidaire. Elles créent des emplois, et des emplois non délocalisables. Et donc, on... à la fois pour répondre à la crise sociale d'aujourd'hui et à la fois pour lutter contre cette catastrophe climatique en préparation, il y a des milliers d'alternatives et on appelle, grâce à ces villages alternatifs, les gens à s'en emparer, à les promouvoir autour d'eux, à les renforcer, etc. Et on pense comme ça que non seulement on va changer nos vies, le quotidien, ici et maintenant, mais en plus on va faire pression sur les décideurs pour qu'ils se maillent à freiner ou à stopper l'irréparable.
Donc les villages, ils durent toute l'année, c'est...
En fait, il y en a déjà un qui a rassemblé 12 000 personnes à Bayonne, qui était organisé par 583 bénévoles, qui a été un truc immense, vraiment, où tout le monde est sorti avec la patate, etc. Et là, il y en a plein qui sont en train d'être préparés. Alors, il y en a dans quelques jours à Agen, il y en aura à Garges-lès-Gonesse fin septembre, il y en a en octobre, et il y en aura toute l'année jusqu'à la fin 2015. Il y en a des dizaines en préparation, et on appelle tout le monde à en préparer d'autres. Et ces villages, ils durent un ou deux jours, mais en fait, ils sont préparés pendant des mois et des mois, et c'est tout le processus de leur préparation qui est aussi un truc très important, et après ils ont plein de conséquences dans les mois et les années à venir. Nous à Bayonne, ça a créé plein de choses chez nous qui durent et qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui.
Et c'est un hasard que ça se soit produit au Pays Basque ?
Mais en fait, en Pays Basque, il y a un gros mouvement qui s'occupe des questions de climat, parce que d'abord, on est très affecté par le changement climatique. Déjà, nous, ici, il faut savoir, par exemple, cet hiver, en Pays Basque, il y a eu un recul du trait de côte terrible. Il y a eu 3 morts dans divers événements climatiques extrêmes, à Biarritz, à Saint-Palais, etc. Il y a eu des inondations terribles, beaucoup de dégâts, etc. Il y a un mouvement qui s'occupe de ces questions climatiques depuis longtemps, d'urgence climatique et de justice sociale. Et donc l'impulsion a été lancée là, mais ça a été un lieu de rendez-vous pour des gens de toute la France et même d'Europe. Et aujourd'hui, ces alternatives-là, ils se font dans toute la France, mais aussi à Bruxelles, à Genève, en Espagne, en Bosnie, etc. etc.
Bonjour, alors je vois rap, mais c'est pas du rap, c'est résistance à l'agression publicitaire. Tu peux nous expliquer un peu ?
Oui, alors RAP, c'est une association nationale, c'est la seule d'ailleurs pour la lutte anti-pub. On regroupe plein de gens qui viennent de plein d'autres collectifs, mais c'est une association qui existe depuis 92 et il semble important qu'elle existe parce qu'il faut aussi une vitrine légale à la lutte contre la publicité. C'est quand même un fléau c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher avec un budget assez énorme. C'est quand même 500 milliards quasiment par an au niveau mondial. C'est la propagande du capital et du patriarcat. Et on ne peut pas se contenter, même si c'est important de lutter localement, on ne peut pas se contenter de cette lutte locale et au sein d'un collectif. Il fallait également le faire légalement au sein d'une association.
Voilà. Alors, agression, il faut expliquer un peu quand même, parce que t'as l'impression que, bon, il y a des affiches, mais tu n'es pas obligé de les regarder.
Alors, on n'est pas obligé de les regarder, même si c'est très, très difficile d'y réchapper. On a des chiffres, hein, on reçoit entre 300 et 5000 messages publicitaires par jour. Hein. Après, ça dépend de à quel média on est exposé, mais c'est impossible d'y échapper. Et c'est assez pernicieux parce que c'est tellement omniprésent qu'on finit par l'assimiler, à considérer que c'est normal et aussi à assimiler les idées qui sont véhiculées. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce que c'est que d'être heureux, qu'est-ce que c'est que le rôle de la femme et la position du citoyen et on assimile aussi la publicité nous frustre et nous pousse en fait à nous modifier nos désirs et nous pousse à consommer à outrance et donc maintenir le système capitaliste en place. C'est quelque chose d'extrêmement grave en fait, mais très pernicieux. C'est vrai, les gens ont tendance à croire que ce n'est pas si important que ça et ne se rendent même pas compte qu'ils sont en permanence agressés. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le terme agression, et c'est bien une agression, même une oppression.
C'est vrai. Y a des mouvements féministes hein, qui se battent depuis longtemps aussi contre au moins les publicités sexistes. Et donc l'image qui est très souvent véhiculée par la pub, assez catastrophique pour les femmes. Vous avez des liens avec ces mouvements ?
Oui, on voudrait en avoir plus, mais on en a. On a travaillé avec le collectif contre le publisexisme, qui est un petit peu... un peu moins actif en ce moment, mais on en cherche encore des liens, parce que oui, on est absolument, absolument d'accord que c'est une des parties les plus graves et les plus importantes de la propagande de la publicité. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ça pousse.
On rappelle récemment la crème fouette, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est...
Ah oui, mais les exemples sont hélas pléthores, oui, où on minimise le fait on banalise le fait d'exercer des violences envers les femmes. Et c'est une violence permanente, hein, une agression permanente. Et je trouve qu'elle attaque les femmes de quel âge qu'elles soient, en fait. Et les enfants, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça que, par exemple, à RAP, on considère qu'il faut complètement interdire les publicités pour les enfants, puisque c'est quand même le public le plus sensible, le plus influençable, et ça fait du mal énormément aux garçons, bien entendu, mais aux filles, hein, beaucoup, puisque ça leur inculque, ça leur impose un mode de vie, une image d'elles-mêmes qui est extrêmement négative, et en gros des codes auxquels elles doivent obéir, qui sont vraiment, vraiment très, très néfastes, quoi.
Et après, il y a forcément des questions qu'on doit vous poser. C'est que énormément, comme ça véhicule beaucoup d'argent, énormément de gens en vivent de la publicité. Déjà, les médias vivent de la publicité, les télés, bon. Et donc, c'est forcément une des questions qu'on vous pose.
Oui, alors, quelle télé et quel média ? Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que quelques...
Pas galère, hein ?
Oui, voilà. Il n'y a que quelques entreprises qui peuvent se permettre de faire de la publicité. En gros, pour vous dire, 550 entreprises françaises s'accaparent 80% des publicités en France. Donc, ce n'est pas du tout démocratique. Ce sont en général des énormes entreprises qui nous poussent à la surconsommation. Donc, non, ça ne crée pas tellement d'emplois, ça en fait perdre énormément à des petites entreprises, à des PME, à des gens qui sont plutôt dans l'artisanat. Donc non, au contraire, c'est un mythe, mais c'est un mythe qu'on nous vend à grand fort de publicité.
Oui, quand je disais des gens en vivre, c'est les gens qui travaillent pour la publicité, parce que il y a, ben vous le dites dans votre petite plateforme, hein, il y a des, je sais pas moi, des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, des gens qui se creusent les méninges pour savoir la forme que doit avoir la bouteille, le contenant, l'étiquette. Quelquefois, on me dit mais c'est incroyable le gaspillage de force humaine que ça représente et de cerveau pour réfléchir à des âneries pour mieux combattre, enfin pour mieux faire vendre un truc par rapport à un autre, alors qu'au bout du compte les gens ils ont un seul estomac, ils iront qu'un soir au cinéma par semaine, ils ont un seul portefeuille, enfin c'est, ça tient pas debout, donc c'est cette logique-là aussi.
Oui, tout à fait. C'est très important comme point. Parce qu'en réalité, la publicité, c'est la propagande du capital. Et on ne peut pas dissocier la lutte contre la publicité de la lutte contre le capitalisme et le mode de vie, le système économique dans lequel on vit. Effectivement, il y a énormément de gens qui se retrouvent à travailler pour la publicité. C'est le deuxième budget après l'armement au monde. Hein. C'est entre 300 et 500 milliards par an. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont accaparés par ça, qui trouvent de moyens de subsistance comme ça. Donc, bien entendu, si on lutte contre la pub, il faut aussi lutter contre un certain mode de vie, un certain mode économique. Et bien entendu, on ne peut pas dissocier une lutte d'une autre, c'est normal. Mais il faut lutter contre la publicité de manière aussi spécifiquement sur la publicité, parce que c'est quand même par ce biais que le capital se vend et modifie et influe les personnes. Ouais, crée des besoins et donc influe aussi sur notre perception du monde et de nos propres besoins aussi.
Merci. Bonjour, donc c'est le stand de la Fondation Rosa Luxembourg, apparemment à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, donc la Fondation Rosa Luxembourg est une fondation politique qui a ses origines en Allemagne et nous travaillons proche de du parti Die Linke, donc c'est le parti de la gauche allemande. Et nous avons un petit bureau à Bruxelles où nous nous occupons des relations en Europe et aussi internationales.
D'accord. Donc là vous êtes venu à Attac tenir un stand à cette fête des Attaques d'Europe. Ça se passe bien ?
Ça se passe très bien, oui. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés. Et puis, c'est surtout Attac qui a organisé une super université. Donc, oui, ça se passe super, c'est très bien.
Et D-Link, donc, vous avez des liens, par exemple, avec les partis aussi un peu du même genre en Grèce, là, le Syriza.
Oui, tout à fait. Nous essayons un peu de voir où sont nos buts communs, en fait, et nous travaillons beaucoup ensemble sur les enjeux de société, économique.
Ça prend quelle forme ? Enfin, c'est dans le cadre du Parlement européen ou bien c'est à côté
Ça peut prendre beaucoup de formes différentes en fait. On fait des réunions au sein du Parlement avec les fractions de la gauche et au-delà aussi. Mais aussi on fait des réunions entre les différentes parties de la société civile en Europe et même aussi au-delà de l'Europe pour justement donner plus de force en fait à ces organisations, aux NGO, etc.
ONG,
oui, pardon.
Bon, et là, il y a eu les élections européennes et vous avez fait un groupe au Parlement ?
Ben, notre groupe, il y en a déjà eu un, c'est la GUE-NGL. Donc ça, c'est la fraction de gauche et qui a déjà été là avant les élections et qui a fait le même pourcentage. Maintenant, j'ai 7%, je crois.
Voilà. Donc ça suffit.
Oui, ça suffit, oui. Ouais. Okay.
Merci.
Come on, Hilda Bell, which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Oh, which side are you on? My father was a miner and I'm a miner's son. Stick with them brothers, miners, and until this battle's done. Which side are you on? Oh, which side are you on? In a long county that I know it grows there.
under a forty-inch pillow. Tilt now, are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? And gentlemen, can you stand it? Oh, tell me if you can. Oh, will you be a little old bugger? Will you be a man? Tell me which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Don't scat for them bosses, don't listen to their lies. Us workers haven't got a chance unless we organize. Tell me which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? From all of you good miners, good news to you all tell. What happened is the union doesn't come here to dwell. Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on?
Allez, rêve, c'est tour de lèvres, rumba la bumba la bumba la bumba. Allez, rêve, c'est tour de lèvres, rumba la bumba la bumba la bumba. Una noche en un paso, ay Carmela, ay Carmela. Una noche en un paso, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada fueron bombas, rumba la bumba la bumba la bumba. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bumba. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, rumba la bumba la bumba la bumba. Ataques muy rabiosos, rumba la bumba la bumba. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la bumba la bumba la bumba. Pero igual que combatimos, rumba la bumba la bumba la bumba. Prometimos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela.
Bravo! Cette année, c'est aussi le 50e anniversaire de la sortie de l'album de Bob Dylan qui s'appelle Times They Are Changing. Il y a une chanson qui est très d'actualité qui s'appelle Only a Pawn in Their Game. Et cette chanson, elle a été écrite suite à la mort d'un militant pour les droits civiques qui s'appelait Matt Gare Evers, qui avait été assassiné par quelqu'un du Ku Klux Klan. Et comme vous le savez, en ce moment, il y a des mouvements sociaux à Ferguson, dans la banlieue de Saint-Louis aux États-Unis. Cette question de la haine raciale, elle est toujours très présente aux États-Unis. Mais cette chanson, elle nous parle aussi de notre actualité en Europe. Parce qu'elle montre comment les politiciens peuvent instrumentaliser la haine pour détourner la colère juste de la population contre des boucs émissaires. Et c'est précisément ce sujet que traite cette chanson. Bush took Matt Gulliver's blow. If finger fired the trigger to his name, a handle hid out in the dark, a hand hit the spark, two eyes took the aim.
behind a man's brain, but he can be blamed. He's only a pawn in their game. The South's politician preaches to the poor white man, you've got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician gain as he rises to fame. And the poor whites remain in the caboose of the train, so it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. Deputy sheriff, the soldiers, the governors get paid, and the marshals and cops get the same. But the poor white man used in the hands of them all like a tool, is taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate, so he never thinks straight. But the shape that is in, so it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks. And the hoof beats pound in his brain, and he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch. To hang and to lynch, to hide is the hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, so it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. Today, Madger Evers was buried from the bullet a car. They loan him down as a king. But when the shadowy sun sets on the one who fired the gun, he'll see by his grave on the stone that remain, carved next to his name, his epitaph plain. Only a pawn in their game.
Wow. Il faut bien que cette compagnie se dissolve. On va finir par une chanson qui peut faire le lien entre les mémoires de luttes passées, celles d'aujourd'hui à venir, et qui passe par la buvette. Donc qui s'appelle Le Grand Étage. C'était hier, samedi, jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais senti si rond. Là, la bourgeoise qui réplique devant le zinc, feignant qu'elle dit, t'as donc lâché le turbin. Oui que je réponds, car je fais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Oui que je réponds, car je fais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À la porte ont donné 25 centimes pour soutenir les grèves de Virzon. Bref, à part 4 municipaux qui schlinguent et 3 sergents déguisés en Pékin, j'ai jamais vu
d'aussi chouette métingue que le métingue du métropolitain. J'ai jamais vu d'aussi chouette métingue que le métingue du métropolitain. Il y avait Basseline, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du pays. Ils ont grimpé tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on entend du bastrin. C'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métingue, le grand du métropolitain. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Moi je tombe dessus, et pendant qu'il proteste d'un grand coup de poing, j'y renfonce son chapeau. Il déguerpit sans demander son reste en faisant signe aux quatre municipaux. À la faveur de ce que j'étais brezin, on m'a mené jusqu'au poste voisin. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est comme ça qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. C'est pas fini, il y a une morale. Comme à Attaque, il y a toujours une morale. Peuple français, la Bastille est détruite, car il y a encore des cachots pour tes fils. Souviens-toi des géants de 48, que t'es plus grand, cesse du jour d'aujourd'hui. Car c'est toujours pauvre verrier qui trinque, même qu'on le fout